France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Gustave Yanouche n'était encore qu'un lycéen de 17 ans, épris de littérature, quand il rencontra Franz Kafka, avec lequel il noua une relation privilégiée. C'était à Prague en 1920. Durant 2 ans, au fil de leur conversation, le jeune homme nota dans des carnets, avec la plus grande précision, les paroles prononcées devant lui par l'auteur de la Métamorphose. Ces transcriptions furent partiellement publiées en Allemagne en 1951 et en France l'année suivante dans une traduction de Clara Malraux sous le titre « Kafka m'a dit ». La deuxième édition allemande de ces conversations, intégrale cette fois, paraîtra en 1968, année de la mort de Yanouche, et dans sa traduction française chez Maurice Nadeau, sous le titre « Conversation avec Kafka » en 1978. Cette année-là, c'était de ce précieux témoignage sur l'homme et l'écrivain Kafka, dont s'entretenaient Dominique Arban et Monique Neymer dans « Étranger, mon ami », une émission diffusée la première fois, le 21 mars 1978, sur France Culture.
Nous avons aujourd'hui devant nous un livre très particulièrement captivant. Un livre dont certaines parties avaient déjà paru il y a une quinzaine d'années, si je ne me trompe. Un livre traduit de l'allemand par Clara Malraux, qui s'appelait « Kafka m'a dit » et dont l'auteur était le même, si je puis appeler ça l'auteur, que celui dont nous parlons aujourd'hui, Gustave Yanouche. Ce livre d'il y a une quinzaine d'années est inclus dans celui dont nous parlons aujourd'hui, parce que c'était les fragments de carnet qu'un certain garçon, Gustave Yanouche, tenait tous les jours où il avait rencontré Kafka au bureau où celui-ci était administrateur, assez haut niveau puisqu'il était agrégé de droit, dans les assurances contre les accidents du travail. Il se trouvait qu'un de ses confrères avait un fils de 17 ans qui était passionné par la littérature et qu'il présenta un jour à celui que ce garçon appelle tout au long de ce livre le docteur Kafka. Docteur étant en allemand un titre honorifique. Et voici donc ce jeune garçon de 17 ans, Gustave Yanouche, pris par une espèce de passion secrète, filiale, admirative, avec quelque chose certainement de passionnel pour cet homme, tellement courtois, tellement disert, tellement savant, tellement profond. Nous allons parler de Kafka comme Yanouche pense à Kafka, Monique Neumer. Oui, oui. Il nous impose ce personnage du docteur Kafka qui n'est pas le Kafka que nous connaissons.
Qui n'est peut-être pas le Kafka que nous connaissons, en tous les cas, qui est un Kafka différent. Et je crois que tout le texte, évidemment, toutes ces conversations sont faites au travers de l'intelligence, de la compréhension et du regard de ce très jeune garçon de 17 ans, puisque les conversations commencent en 1920, elles vont s'achever aux alentours de l'année 1922, Kafka va mourir 2 ans, je crois, plus tard. Et il y a là une relation tout à fait particulière, dont on pourrait dire de la part de Kafka qu'elle est quand même d'une certaine façon une relation pédagogique.
Absolument.
Il est extraordinairement soucieux de la sensibilité, de la jeunesse de son jeune interlocuteur. C'est extrêmement sensible et il y a de la part de Yanouche une véritable vénération. Il dit « Le docteur Kafka était pour moi un maître et un confesseur ». Mais on sent aussi très fréquemment que Kafka va être soucieux de ne pas troubler le jeune garçon. Une fois précisément, il préfère être mal compris, et Yanouche le note sans savoir exactement ce qu'il note, mais il préfère être mal compris plutôt que trop compris et d'avoir une influence pessimiste et triste sur ce jeune garçon. Mais je crois que ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'au travers de ces atténuations, il y a quand même une très grande vérité de Kafka qui se révèle.
Alors,
au travers de ces conversations.
Il faut dire que ce garçon disposait d'une mémoire qui est fréquente chez les adolescents et que notant le soir même les mots que disait Kafka, nous ne pouvons pas du tout douter de leur véracité.
D'autant moins que le jeune garçon, enfin, on en parle toujours comme d'un jeune garçon, mais ce jeune garçon à l'époque a eu le souci de garder une image absolument intouché du Kafka qu'il a connu, au point, nous dit-on dans la préface de ce livre, qu'il s'est refusé, ce qui est discutable, à lire toutes les œuvres publiées ultérieurement de Kafka.
J'ai un Kafka à moi.
C'est son Kafka à lui, et c'est important. Mais je crois que ça a une autre conséquence, la nature particulière de cette relation sur ce texte, c'est que Kafka a un souci prodigieux de s'exprimer avec une grande clarté et avec une grande précision. Et on peut dire que ce texte est un ensemble de citations absolument extraordinaires et de formules qui sont extraordinairement frappées, dans lesquelles Kafka s'exprime sur une quantité de sujets vraiment incroyables et même dépassant sans doute l'intelligence de son jeune compagnon.
Leur conversation avait lieu la plupart du temps dans le bureau de Kafka, un bureau très grand, parfaitement net, où il n'y avait jamais rien sur la table. Et Kafka, devant l'étonnement du jeune garçon, lui a dit « Mais vous savez, moi, quand j'ai fini un dossier, je le passe au bureau à côté, et puis je sais qu'il va aller dans l'autre bureau, et puis il va encore aller dans un autre bureau. Et en réalité, ce dossier, je le suis de bureau en bureau jusqu'à sa fin. » Et là, nous retrouvons un certain Kafka que nous connaissons.
Oui, certainement. Mais ce Kafka expert juridique manifeste quand même une très grande hostilité à la bureaucratie. Visiblement, son état de fonctionnaire l'oppresse terriblement.
Ah, mais ça, nous le savons depuis longtemps. Il ne pouvait pas supporter ça. Il a d'ailleurs cherché un travail qui lui prendrait le moins de temps possible. Il a trouvé celui-là, ça allait tout seul. Nous devrions, je crois, prendre des thèmes qui sont traités par Kafka devant ce jeune garçon Janusz, et dire aussi que ce n'est pas seulement dans le bureau que ces conversations avaient lieu, elles avaient lieu, et ça me paraît d'une certaine importance, dans les ruelles de la ville de Prague. Les maisons tassées sur elles-mêmes dans ces ruelles tordues, brumeuses, obscures, et dominées par ce château considérable, comme une ville. Cette ville tient une place, je ne dirais pas capitale, mais certainement importante comme décor.
Oui, il y a un double décor. Il y a ce décor de ville où il déambule pendant de longues et longues heures, et il y a le décor intellectuel. Ce livre est aussi plein de toute la vie littéraire de Prague à cette époque, et pas simplement de Prague, car le jeune Janusz est passionné de littérature, et ça crée précisément ce double décor dans lesquels et sur lesquels se jouent quand même de très grandes questions.
Les revues qui paraissent, Max Brod, on sait que Max Brod a été l'éditeur posthume pratiquement de toute l'œuvre de Kafka, dont seulement quelques récits avaient paru en revue à l'époque, et que Kafka avait décidé qu'il fallait brûler après sa mort. Max Brod, heureusement, n'a pas obéi à cela. Max Brod était à la tête de certaines réunions, disons, d'intellectuels tant soit peu anarchistes. Et là, nous retrouvons le Kafka individualiste, parce qu'il aimait lire les anarchistes russes, leurs théories, et ils en parlaient tous les deux. Il y avait chez Kafka, et ceci nous apparaît dès les premières pages, une très grande préoccupation de justice, nous le savons, bien sûr. C'est un des grands thèmes de Kafka, mais il apparaît ici d'une façon très particulière. Voici ce que nous dit, par exemple, Janusz. « La gentillesse du docteur Kafka consiste à montrer tant de rigueur, de justice et en même temps de compréhension aux gens de son entourage qu'il leur impose involontairement une attitude analogue. Aussi, dans ce besoin de justice, a-t-il agi d'une façon très particulière en payant très largement un avocat pour défendre contre sa propre compagnie d'assurance un vieil employé qui avait été victime d'un accident du travail, lequel vieil employé n'aurait sinon reçu que de quoi mourir de faim. »
Il était tout à fait incapable d'établir lui-même son dossier, et Kafka, et c'est une attitude qui est extrêmement d'abord révélatrice de la bonté de Kafka, mais qui est peut-être aussi révélatrice d'une hostilité contre la bureaucratie dont il faisait partie. Mais ça, c'est une des apparitions de l'homme Kafka. Ce livre est précisément plein d'un Kafka humain, d'un Kafka bon, mais aussi, je crois que c'est essentiel, d'un Kafka extraordinairement angoissé. Il dit « Je fais la gaieté pour me dissimuler derrière elle, mon rire est un mur de béton. » Et il a cette phrase terrible sur la vie, « Qu'est-ce que la vie tout entière ? Une chute libre. » Et je crois que le livre est plein comme ça d'une sorte de ponctuation d'angoisse qui est extrêmement révélatrice de ce Kafka de 2 ans avant sa mort.
Et on apprend aussi à travers ces conversations des choses que nous ne savions pas, du moins je ne savais pas, qu'un certain sens de culpabilité, qui sera un des grands thèmes de l'œuvre de Kafka, est apparu à propos d'une petite histoire de son enfance. Il avait 5 ou 6 ans, il avait été battu par ses camarades, il est rentré en loque, il a été terriblement, disons, engueulé par ses parents et par sa nounou, et qui lui a dit « Tu es un vrai ravachol. »
Ah, oui.
Ravachol, il ne connaissait pas. Alors il a demandé « Qu'est-ce que c'est qu'un ravachol ?» On lui a dit terriblement « C'est un meurtrier. »
Oui, c'est un assassin.
Et alors, à partir de ce moment-là, il s'est dit « Mais je suis un assassin. »
Et d'ailleurs, il confesse qu'un des intérêts qu'il a porté aux anarchistes est le désir aussi de retrouver ce sentier, ce moment de son enfance où on l'avait accusé d'être un ravachol. C'est-à-dire qu'il y a dans ce livre une sorte d'aller-retour entre le Kafka présent, tout ce qu'il a communiqué à ce très jeune garçon, et tout un ensemble de résurgences sur son passé. Mais ce qui est caractéristique...
Et sinon, de parallélisme, de jonction avec l'œuvre, le verdict, le procès... Le...
Oui, bien sûr.
Vous parliez tout à l'heure de ce Kafka angoissé. Je pense à cet enfermement où il a toujours vécu, à ce prodigieux isolement, à cette certitude d'être absolument seul. Et c'est un thème qui revient très souvent dans ces conversations.
On a précisément très souvent la notation, et très souvent Kafka utilise des métaphores de la prison. À un moment, il dit « je porte mes barreaux sans cesse en moi ».
Oh oui, c'est magnifique.
Il s'imagine aussi être dans une coque entourée de fils de fer. C'est-à-dire que je crois qu'il faut insister sur ce point. En fait, quelle que soit la jeunesse de son interlocuteur, Kafka laisse passer énormément de choses de sa vie profonde et de sa vie réelle. Beaucoup de choses, par contre, sont occultées. Il ne parle quasiment jamais de son œuvre.
Il est en train d'écrire le château.
Il est en train d'écrire le château. Il n'en dit pas un mot et Janusz n'en soupçonne strictement rien. Par contre, il y a deux choses qui sont quand même liées au Kafka écrivain et sur lesquelles il s'exprime beaucoup. L'une des deux est la passion qu'il a pour la langue et la passion qu'il a pour les mots.
Ça, c'est une chose que nous connaissons bien par son journal, où il est tellement question de cette tragédie de Kafka qui ne se sentait pas de patrie parce qu'il savait qu'il employait un langage qui n'était pas le sien, qu'il écrivait dans une langue qui n'était pas la sienne. Il avait une quadruple appartenance. Il se sentait juif.
Profondément. Il y a d'ailleurs énormément de passages qui parlent cette judaïté très important dans ce livre.
Il y a le fait que le tchèque, mon Dieu, c'était la langue populaire et qu'on ne l'employait guère, sauf comme ça, par hasard, en famille ou avec des domestiques, ou pour blaguer entre soi. On parlait allemand. Il avait fait ses études en allemand. Il écrivait en allemand. Il a toujours dit, je n'écris pas dans ma langue.
Oui.
Ma langue, je n'en ai pas.
Or, il a le sentiment qu'il y a un lien profond entre la langue et le pays, il dit toujours dans ce même livre, la langue, c'est l'haleine sonore de la patrie. Et c'est très fréquent parce que il a aussi, et c'est une des angoisses qu'on pourrait signaler, qui transparaît très fréquemment dans cet ouvrage, une sorte de terreur de Kafka, ou du moins d'inquiétude très profonde de Kafka, face au monde nouveau qui est en train de se mettre en place.
Alors il y a des choses extraordinaires, des choses d'une prophétie surprenante. C'était dans les années 20, la révolution russe venait d'avoir lieu, elle paraissait heureuse, elle paraissait à l'époque une vraie révolution, un mouvement de liberté. Et cependant, Kafka en parle d'une manière absolument prophétique, à propos d'un meeting, drapeau, bannière au vent. Janusz, devant la réticence visible de Kafka, lui demande « Vous ne croyez pas à la puissance des masses ?» Et voici ce que répond Kafka. « Je la vois, cette puissance des masses. Elle est informe et paraît indomptable et elle n'a de cesse qu'elle ne soit domptée et formée. » On croirait Dostoïevski. « Au terme de toute évolution vraiment révolutionnaire, il surgit un Napoléon Bonaparte. Vous ne croyez pas que la révolution russe s'étend encore ?» demande Janusz. Après un instant de silence, Kafka répond « Plus une inondation s'étend, moins son eau est profonde et plus elle est trouble. La révolution s'évapore et il ne reste que la vase d'une nouvelle bureaucratie. Les chaînes de l'humanité torturée sont faites de paperasse. »
Oui, l'obsession et l'angoisse d'une montée du papier et d'une perte des qualités profondes de l'individu. Pour Kafka, il y a une opposition absolument indiscutable entre la force de l'individu, y compris l'individu qui va à contre-courant, il le dit, il y a de décisif que l'individu qui se bat à contre-courant, et le sentiment que le monde est en voie d'être submergé littéralement par les masses.
Oui, il le dit, l'homme est d'une tristesse affligeante, parce qu'au milieu de la montée constante des masses, il est de plus en plus solitaire de minute en minute. Et souvent, il a parlé de l'art de la littérature avec Janusz. Il dit à un moment donné, vous souffrez et vous vous battez pour votre musique, parce que Janusz était musicien. C'est pourquoi vous ne vous pliez pas à l'interdiction paternelle, parce que vous aimez la musique, et ce qui est lié à la musique plus que vos propres parents. Mais c'est toujours ainsi en matière d'art, il faut rejeter la vie pour la gagner. Et c'est bien ce qu'il a fait.
Oui, et on peut aussi ajouter peut-être une dernière citation qui jouerait pour toute l'œuvre de Kafka, mais peut-être aussi en pensant à Janusz, Kafka dit « La plume n'est que le stylet sismographique du cœur, elle enregistre les tremblements de terre, elle ne les prédit pas. »
C'était « Étranger, mon ami », conversation avec Kafka de Gustave Janouch avec la participation de Monique Nemer. Une émission proposée par Dominique Arban, diffusée la première fois le 21 mars 1978 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.